10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Michaël Darmon.
Bonjour Thierry Mariani.
Bonjour.
En 1995, vous étiez maire RPR de Valréas dans le Vaucluse et vous meniez un combat quotidien contre Jacques Bompard, le maire FN d'Orange, la cité voisine. Et parmi vos compagnons de route, il y avait également Renaud Muselier, l'autre enfant du pays. Aujourd'hui, c'est votre adversaire aux élections régionales du 20 juin. Vous avez rejoint en 2019 la famille politique que vous combattiez, celle de Marine Le Pen, sans prendre la carte pour autant de ce parti, je le précise. Votre parcours résume à sa manière les tensions profondes qui existent au sein de la droite française depuis des années. Avec cette campagne, c'est aussi le grand déconfinement de la présidentielle qui commence aux côtés du déconfinement sanitaire, on assiste au déconfinement des colères, les militaires, les policiers, les Français sont meurtris après plus d'un an de Covid. Entre une droite prise en étau entre Le Pen et Macron et une gauche qui marque chacun dans son coin les 40 ans de l'élection de François Mitterrand, une chose est certaine, il n'y a aucune certitude pour l'élection de 2022. Pour ce grand rendez-vous, avec moi je salue Nicolas Barré des Échos et Johan Usaï de CNews. C'était il y a 4 ans. Lorsque Emmanuel Macron venait d'arriver à l'Élysée, c'était le 13 juillet 2017, il s'adressait aux militaires alors qu'il était en train de limoger le chef d'état-major des armées. On écoute, on regarde.
J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire.
Bonjour Thierry Mariani.
Bonjour.
Une nouvelle tribune de militaires qui critique le gouvernement est en préparation. Cette fois, ce sont des militaires d'active qui devraient la signer. Et selon des sources internes à l'armée, il serait jusqu'à 2000 à soutenir la première tribune publiée le 21 avril dernier. Des militaires qui font de la politique en dépit de leur devoir de réserve et de la tradition républicaine. Vous soutenez, vous approuvez ou vous condamnez?
Les militaires sont avant tout des citoyens. Des citoyens qui se rendent compte de l'état de la France. Et vous savez, les Français ont confiance dans l'armée. Personne ne croit sérieusement à un coup d'état possible, il faut être sérieux. Les Français ont confiance dans leur armée et les Français apprécient ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie pour défendre la France.
Là, la question, c'est plutôt la loyauté.
Mais excusez-moi, on peut avoir un avis et être loyal.
En tant et que la
citoyen,
réserve.
En tant, que, réserve, en tant que citoyen. Mais oui, là, il ne signe pas en tant que citoyen, il signe en tant que militaire.
Mais dans ce cas-là, excusez-moi d'abord, il faut interdire toute activité politique aux militaires. Or, puis-je vous rappeler deux exemples? Madame Laetitia Saint-Paul, députée, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez ce qu'elle faisait juste avant d'être députée pour M. Macron? Elle était militaire d'active. Quand je vois aussi qu'on dit « mais des généraux de 2S, ils n'ont pas le droit ». Moi, je me souviens d'un candidat à Marseille, le général de 2e section, David Galtier, qui a été élu pour les Républicains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militaires n'ont pas le droit d'avoir d'opinion que s'ils soutiennent M. Macron? Voilà, non, je pense que les militaires ont des opinions, les militaires sont loyaux. Chacun le sait, comptez pas sur moi pour dénigrer l'armée, mais ces militaires simplement font le constat de la réalité française. Et si les Français le soutiennent...
Mais ça pose quand même une question, Nicolas Barré.
Malgré tout, Thierry Mariani, soutenir cette tribune comme le fait Marine Le Pen, est-ce que c'est pas quelque part contradictoire avec la stratégie de dédiabolisation? Est-ce que c'est pas contradictoire avec l'idée que l'ambition d'être un jour à la tête de l'État est donc garant de la neutralité de l'armée?
Marine Le Pen approuve tout simplement les propos de cette tribune, mais comme l'écrasante majorité des Français. Et en réalité, l'indignation du gouvernement, à mon avis, est une opération très maladroite, parce que ce constat, je le répète, c'est le constat de la réalité aujourd'hui.
Il est question de la forme, pas du fond. Là, ce sont des militaires qui défient leur chef.
Écoutez, certes, Macron, en tant que chef de l'État, est leur chef, mais un chef dont les militaires, comme les policiers d'ailleurs, commencent de plus en plus à douter des qualités. Et puis, vous savez, je connais bien l'armée. J'ai été élevé à Aix-en-Provence dans un collège militaire. Je fais mon service militaire. J'ai même fait l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Qui peut croire une seconde que ces militaires menacent la démocratie? Voilà, il y a des moments où des militaires peuvent exprimer une position sans forcément rentrer dans le débat de parti politique.
L'indignation, c'est pas seulement au gouvernement. L'indignation est aussi au sein de l'état-major.
Oui, écoutez, le chef de l'état-major, il est aux ordres du président. Voilà, donc je pense que...
C'est pas quand même pour vous le signal d'un malaise quand l'armée fait irruption dans le débat politique. On va clore là-dessus et passer aux autres sujets, mais quand même, c'est quand même... le symbole est extrêmement frappant.
Bien sûr qu'il y a un malaise.
L'armée fait irruption dans le débat politique.
Bien sûr qu'il y a un malaise, mais les responsables du malaise, ce ne sont pas les militaires. C'est la politique suivie par ce gouvernement depuis des années qui nous amène à une sorte de chaos sécuritaire. Et donc, en réalité, plutôt que de critiquer, de faire une sorte d'opération politique contre ces militaires, je pense que ce gouvernement ferait mieux de faire une introspective et se dire comment on en est arrivé là, comment aujourd'hui les Français ne se sentent plus en sécurité et comment des hommes dont la loyauté ne peut pas être mise en cause en arrivent à signer une telle tribune.
Thierry Mariani, l'annonce d'un accord dans le Sud entre les macronistes et Renaud Muselier depuis une semaine a fait exploser littéralement la droite sur ce terrain, dans cette région, la vôtre. Est-ce que pour vous, les lignes ont bougé et comment ?
Écoutez, d'abord, si vous avez compris ce qui se passe, j'avoue que même moi, j'ai du mal à suivre.
Ah, c'est une des raisons de votre invitation
voilà,
ce matin. Expliquez-nous
mais je
alors.
Pense qu'en plus, il y aura une suite au feuilleton. Attendez la semaine qui arrive jusqu'au dépôt des listes, parce que je crains qu'on puisse avoir à nouveau de nouveaux rebondissements. Non, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, d'ailleurs ce que j'ai compris comme les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est que Renaud Muselier et Christian Estrosi sont prêts à toutes les alliances, à toutes les compromissions, pour sauver leur siège. Je vous rappelle qu'en 2015, ils avaient été sauvés grâce au soutien du Parti Socialiste et de M. Castaner. En 2021... Il est clair qu'ils espèrent être sauvés grâce au soutien et au ralliement à En Marche. Et en réalité, on voit que cette position est un peu décidée à la dernière minute. Souvenez-vous quand même de Renaud Muselier, il y a quatre jours avant que M. Castex explique qu'il y a un accord. Il était chez vos confrères en disant « pas d'accord avec En Marche ». Pas d'alliance et pas de soutien. Quatre jours après, c'est le Premier ministre qui annonce cette alliance. Donc la réalité est simple. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, M. Muselier est le candidat d'En Marche. Il ne sera peut-être pas directement au premier tour. On verra s'il y a une fusion ou pas de liste.
Oui, parce qu'il est question que Sophie Cluzel, secrétaire d'État, elle dirige une liste, elle voilà. prétend La République En Marche.
Mais vous savez, le
Donc,
suspense...
Il n'y a pas d'accord.
Le suspense, il n'est pas de savoir s'il sera soutenu ou pas, il est simplement de savoir quand. Est-ce que ce sera dès le premier tour ou est-ce que ce sera dès le second tour ? Et si vous permettez, le communiqué de M. Jacob, Christian Jacob, patron des Républicains,
des LR, oui.
au moment où il suspend l'investiture de Renaud Muselier, est extraordinaire. Il fait six lignes. Dans ces six lignes, à deux reprises, il dit quoi ? Il ne devrait pas avoir d'accord avant le premier tour et au premier tour, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cette région, comme dans d'autres, vous verrez, les Républicains se préparent à un accord au deuxième tour. Et donc, aujourd'hui,
mais
je le répète...
Thierry Mariani, pardon, mais en 2015, par exemple, vous étiez bien content que la gauche se retire pour empêcher la victoire du Front National dans votre région, en PACA. À ce moment-là, on ne vous a pas entendu pour dénoncer cette alliance de circonstances.
En 2015, la gauche a fait ce choix. Je n'avais pas rejoint Marine Le Pen.
Vous étiez content de ce choix-là.
Je n'avais pas rejoint Marine Le Pen. Aujourd'hui, la situation est différente. Comme vous le savez, mon parcours, il est celui de beaucoup d'électeurs dans cette région. Moi, vous savez, j'ai même été candidat, vous le savez, contre Jean-Marie Le Pen en 2010. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui m'avait demandé de partir. En 2021, je suis candidat avec le soutien de Marine Le Pen. Mais ce parcours-là, c'est celui de beaucoup d'électeurs de cette région qui ont compris deux choses.
Bah, d'aucuns disent c'est un peu erratique comme parcours.
Non, c'est pas erratique.
On n'arrive pas à aussi, fidélité successive.
Non, fidélité successive. Je suis resté 42 ans, et vous le savez, M. Darmon, dans ce pays, 42 ans. Dans ce parti. Je ne suis pas un habitué du nomadisme électoral. Moi, j'ai adhéré au parti de Charles Pasqua, de Philippe Seguin, pas un parti qui fait des compromissions avec le gouvernement actuel. Mmh. Et donc, mon parcours, c'est celui de beaucoup d'électeurs dans cette région qui se sont rendus compte qu'aujourd'hui, alors, les Républicains sont en réalité en marche vers en marche.
Alors, quel impact, justement, Nicolas Barré ?
Vous dites que votre parcours, c'est celui de beaucoup d'électeurs, mais ce n'est pas celui de beaucoup d'élus. Comment est-ce que vous expliquez que vous n'ayez pas de ralliement ?
Vous savez, les élus aujourd'hui, pour leurs finances dans les communes, sont très souvent tenus ou liés par les intercommunalités. C'est ce que j'explique à chaque fois. Quand vous êtes maire, l'essentiel de vos ressources vient de l'agglomération, de la métropole, de la communauté de communes. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les élus ? Ils nous disent, écoutez, si on vous soutient ouvertement, on va être tricard, on va être blacklisté dans nos intercommunalités.
En Occitanie, il y a eu des ralliements.
Très faible. Oui, très faible, mais...
Alors que chez vous, en PACA, il n'y en a pas.
Ben, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de ralliement de grands élus, parce que c'est sûr que, par exemple, dans le Var, M. Falco, ou dans les Alpes-Maritimes, M. Estrosi, ou dans les Bouches-du-Rhône, entre Mme Vassal ou M. Muselier, j'allais dire, ils font régner une certaine discipline. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que beaucoup de militants, y compris des élus, nous soutiennent. Et si vous me laissez une minute, je vais vous citer un exemple. Souvenez-vous, le sénateur Stéphane Ravier, tout le monde disait qu'il sera battu. Il sera battu. Parce qu'après les élections municipales, il avait sur le papier 200 voix de retard.
Vous parlez des sénatoriales.
Des sénatoriales, voilà. À la sortie, il est élu avec 50 voix d'avance. Pourquoi ? Et il m'avait dit pendant sa campagne, tu peux pas savoir, j'ai des maires qui me reçoivent en cachette comme du temps de la résistance parce qu'ils ont peur que ça se sache et ils ont peur pour leurs finances, mais ils me disent, je voterai pour toi. Et à la sortie, il a gagné de 50 voix. Il a remonté 250 voix
de grands électeurs. Donc vous dites qu'il vous arrive la même chose, on vous dit en sous-main, on ne peut rien dire, mais en fait, on va se rallier à cette candidature.
Pour les élus, c'est évident que les ralliements publics sont difficiles. Pour les électeurs, c'est totalement différent. Je peux vous assurer que les témoignages de soutien sur les marchés, sur mon SMS, etc., se multiplient de gens qui disent « on a compris ». Voter Muselier, ce sera voter pour M. Macron. Vous savez, si Renaud Muselier gagne, ce sera à l'Élysée qu'on ouvrira le champagne. Parce que ce sera une bonne opération pour M. Macron qui pourra revendiquer cette région. Et ce sera aussi une bonne opération pour lui parce qu'il continue à faire exploser ce parti que j'ai aimé, mais qui aujourd'hui est complètement perdu.
On se retrouve dans quelques instants avec Thierry Mariani.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Et Thierry Mariani, tête de liste pour le Rassemblement National dans la région Sud. Mais on va partir dans quelques instants dans une autre région, à l'autre côté du pays, Pas-de-Calais. Hier, c'était les premiers pas d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, comme candidat au départemental avec un projet bien précis. On écoute.
J'aimerais bien virer le Front National de ces terres, vous voyez ? Parce que ces terres-là, elles méritent bien mieux que ce que nous propose le Front National, qui est le contraire de l'idée que je me fais de la démocratie, par exemple.
Alors, le garde des Sceaux, donc, a décidé de croiser le fer avec Marine Le Pen. Il dit, elle refuse de débattre avec moi, elle ne veut pas venir à moi, alors je viens à elle. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen ne veut pas débattre avec le garde des Sceaux ? Elle a peur de lui ?
Sérieusement, vous pensez que Marine Le Pen peut avoir peur du Dupond-Moretti ? Non, moi ce qui me choque, je vais vous dire, c'est que je préférais qu'il croise le fer avec les voyous. Je veux dire, le problème, on a quand même un pays aujourd'hui où, comme le reconnaissent tous les Français, il y a un problème d'ordre public, de justice. On a un ministre de l'Intérieur qui part aux élections départementales. J'ai un profond respect pour les élections départementales. J'ai été 12 ans conseiller général du Vaucluse.
Dans le Nord, il va dans le Nord, Gérald Darmanin. Oui.
Voilà, mais... Alors, il part aux élections départementales. On a un ministre de la Justice, il part aux élections départementales. Mmh. Vous croyez qu'on peut se permettre en ce moment d'avoir des ministres de l'Intérieur ou de la Justice à temps partiel ? Voilà, ça veut dire que pendant 6 semaines, au lieu de s'occuper de la délinquance qui dégrade notre pays, bah, ils font faire les marchés, c'est sympathique les marchés. Mais quand on est ministre, on le fait à plein temps, surtout quand c'est des postes comme celui-ci. Donc j'avoue que... C'est une opération politique avec certainement l'aval de M. Macron. Moi, je préférerais une opération pour renforcer la justice dans ce pays. Parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le vrai problème de la sécurité, c'est le maillon judiciaire qui ne fonctionne pas.
On va en parler.
Alors précisément, on va parler maintenant de la région PACA. Vous dites que la région PACA, la région Sud, est une région qui est gagnable pour vous. Mais si on regarde bien les sondages, vous êtes aujourd'hui à 10 points de moins que Marion Maréchal en 2015. C'est pas un peu décevant quand même pour vous ?
Vous savez, en 1997, j'étais le député le plus mal élu de France. J'avais 39%. Et je croisais des gens dans les couloirs qui faisaient leurs valises. Ils me disaient « j'ai été battu avec 48%. » La situation n'est pas la même. Voilà, c'est tout. La situation n'est pas la même. Et ce que les habitants de cette région voient, ben d'abord, c'est une gauche qui a du mal à s'unir. Je crois qu'ils ont fait un accord enfin hier. C'est surtout, je le répète, une droite qui a perdu toute identité et qui a choisi de se rallier à Macron. Et puis, c'est aussi une région où les gens me connaissent. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été maire de Valréas pendant 3 mandats, conseiller général. J'ai été 20 ans député dans la zone d'Orange. Bref, c'est une région que j'aime. J'y suis né, j'y ai grandi. Et dans cette région, je pense que nous avons de vraies chances. Il faut simplement que d'abord nos électeurs se déplacent. Si on a le même scénario qu'au municipal, c'est évident que ces élections seront faussées. Et puis surtout, il faut que les électeurs de droite se demandent s'ils veulent faire le 27 juin un beau cadeau à M. Macron.
Alors justement, ils essayent de s'y retrouver parce qu'en 2010, ceux qui s'en souviennent, ils voient que Renaud Muselier présidait votre comité de soutien à l'époque contre le socialiste Michel Vauzelle. Donc au fond, qu'est-ce qui vous sépare de Renaud Muselier? Ils peuvent aussi dire, Renaud Muselier, on le connaît, on lui fait confiance depuis longtemps. Il a dirigé aussi la ville de Marseille. Pourquoi finalement choisir entre lui et vous? Ils peuvent dire aussi, on a l'habitude de Renaud Muselier. Qu'est-ce qui vous sépare?
Attendez, on est tous les deux de la région, on a tous les deux le même âge et on a tous les deux le même parcours, sauf ces dernières années. Et je le répète, Renaud Muselier est l'exemple de la dérive de ce parti. C'est-à-dire un parti qui aujourd'hui n'a plus de chef, n'a plus de programme, qui laisse partir ses élus les uns après les autres. Monsieur Estrosi a quitté les Républicains cette semaine. Mais moi, franchement, je croyais qu'il les avait quittés depuis longtemps. Ça faisait 3 ans qu'il expliquait qu'il fallait se rapprocher de Monsieur Macron. Moi, je me souviens mes dernières réunions au bureau politique, Madame Pécresse qui demandait mon exclusion parce que dès 2017, je disais, il faudra un jour discuter avec le Rassemblement national. On partage quasiment sur des points les mêmes programmes. Donc Renaud Muselier, je ne mets pas en cause la personne. Je le répète, j'ai une certaine estime pour lui. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il a fait un autre choix politique que le mien, tout à fait respectable, mais un choix que je combats.
Thierry Mariani, on échange des souvenirs. Alors en 2015, vous disiez aussi, le vote Le Pen est sans issue.
Le vote Le Pen.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Rien. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Marine Le Pen? Je pense qu'elle a changé. Je pense que le Front National, c'est pas le Rassemblement National. Je pense que Marine Le Pen a pris conscience des vrais problèmes et surtout est en train de se mettre dans la peau d'un présidentiable qui désormais propose non pas des phrases à l'emporte-pièce, mais des vraies solutions dans toute une série de domaines. Regardez sur l'immigration ou la sécurité, on n'a pas à faire nos preuves, mais regardez par exemple sa tribune sur la dette, je trouve qu'elle est courageuse.
Ça veut dire que le Rassemblement National aujourd'hui n'exploite plus le désespoir des gens, c'est ce que vous disiez il y a quelques années par exemple.
Ça veut dire aujourd'hui que malheureusement le désespoir des gens a encore augmenté et qu'aujourd'hui le Rassemblement National veut montrer qu'il est un parti de gouvernement, qui est un parti qui est capable d'assurer non seulement un mieux en sécurité ou en immigration.
C'est pas ce que pense Eric Ciotti,
mais aussi en économie.
Au fond, vous n'êtes pas crédible pour gouverner, c'est ce qui différencie avec LR.
Alors écoutez, Eric Ciotti, sur cette phrase qu'il me soit permis de lui dire amicalement, qui a à mon avis beaucoup de gens compétents aussi au Rassemblement National, et puis vous savez, j'ai été ministre. Qu'est-ce que j'ai retenu de Nicolas Sarkozy, ministre des Transports, qu'est-ce que j'ai retenu du ministère? Les compétences, en général, vous les avez, ou si vous ne les avez pas, vous avez toute une série de fonctionnaires très doués qui vous font des propositions. Le problème, c'est de décider, d'avoir le courage et la volonté de prendre une décision qui, par moment, est difficile, mais qui est nécessaire pour le pays. Et ce qui nous différencie des Républicains...
Qu'est-ce que le ministère a retenu de vous, si vous avez retenu du ministère, mais qu'est-ce qu'on a retenu?
Eh ben, je vais vous prendre un exemple. Dans mon ministère, aujourd'hui, le service garanti dans l'aérien, par exemple, si vous recevez un petit SMS qui vous dit « Votre avion est annulé », au lieu d'aller vous agglutiner à l'aéroport, c'est parce qu'à l'époque, je l'ai fait contre les syndicats, ou une réforme dont on parle peu. Vous vous souvenez de quand date la dernière grève dans les ports?
Allez-y.
Écoutez, elle date de très longtemps, puisque là aussi, j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout de la réforme et de changer le statut, par exemple, des ouvriers de la manutention dans les ports. Vous allez me dire, c'est des décisions, quand on est ministre des Transports, on construit pas le Louvre tous les jours. Mais c'est les choses concrètes qui changent la réalité.
Alors justement, Nicolas Barré.
Thierry Mariani, vous êtes député européen, mais au fond, est-ce que vous vous intéressez vraiment à la région? Vous avez dû voir ça, le Figaro magazine ce week-end a repris des chiffres quand vous étiez au Conseil régional entre 2004 et 2010, en disant que vous n'avez assisté qu'à 7 séances plénières sur 32, une seule commission permanente sur 40, 3 commissions thématiques sur 83, et notre confrère rappelle même qu'un élu avait mis en vente votre siège sur eBay tellement vous étiez absent. Est-ce que vous vous intéressez vraiment à la région?
Alors, ça vous intéresse?
Bien sûr, c'était le siège 102 de mémoire. Bien sûr que ça m'intéresse, et bien sûr que je m'intéresse à la région.
Si souvent absent?
Parce que vous savez, à l'époque, c'était M. Vauzelle qui était président. Très franchement, passer des journées à l'écouter sans avoir la moindre discussion possible, le moindre poids sur les décisions qui étaient prises par la gauche, ça a quand même peu d'intérêt.
Et là, si vous êtes dans l'opposition, vous siégerez ou pas ?
On est dans l'opposition et que l'opposition est considérée, oui. Si l'opposition est traitée avec mépris, je vous cache pas que dans ce cas-là, je verrai quelle décision je prendrai. Mais je me présente pas à cette élection pour être dans l'opposition. Parce que je pense que vraiment, cette fois, on a une possibilité de gagner cette région.
Et avec quel projet ? Avec quel projet ? Si vous avez une mesure emblématique, parce qu'on peut pas évidemment tout décliner, proposer, à exposer.
Alors d'abord, je vous ferai remarquer qu'on est les plus en avance dans notre campagne. On dévoilera notre programme bientôt, mais tenez, un projet. D'abord, on ne gouvernera pas la région comme M. Muselier. Je vais vous donner deux chiffres. Le rapport de la Chambre régionale des comptes explique que pendant ce mandat, entre le cabinet, les annexes, le service de communication, 77 personnes ont été recrutées. Vous savez combien ont été recrutées pendant la même période pour la sécurité ferroviaire ? 75. Moi, un exemple, je ferai passer la sécurité des passagers avant ma com personnelle. Et dans nos projets, eh bien, c'est effectivement renforcer la sécurité dans cette région. C'est pas le rôle de la région en priorité, mais nous avons une possibilité d'action dans les trains, nous avons une possibilité d'action dans les lycées. Un exemple. Si je prends les personnes qui assurent la sécurité dans les trains en Île-de-France, ils sont 500. Ils sont plus de 500. Mais si on rapportait à la population de la région PACA, ils devraient être 500. Et donc aujourd'hui, il y en a les 75 embauchés par ce mandat, plus 25 avant. Il y en a une centaine. Concrètement, nous ferons chaque année 70 embauches pour les porter à 500. Deuxième proposition très rapide. Moi, je dis le bouclier sécurité pour les communes. Chaque fois qu'une commune fera un effort d'un euro pour sa sécurité, police municipale, véhicule, vidéosurveillance, eh bien la région mettra un euro.
Alors ça, c'est effectivement pour la sécurité, on a compris. Il y a également un enjeu sur la culture. À l'époque, vous aviez justement beaucoup lutté contre la politique culturelle du Front National, notamment à Orange, avec les corrigés d'Orange. La vie culturelle est extrêmement puissante dans la région sud. Pourquoi tout d'un coup, le Rassemblement National serait perçu comme l'ami de la culture ? Qu'est-ce que vous garantissez ?
Parce que d'abord, je vous rappelle que dans les mairies que nous avons conquises et où nous avons été réélus, David Racheline, par exemple, à Fréjus, ou des mairies comme Le Pontet dans le Vaucluse, etc., la culture a repoussé, si je puis dire. Elle n'a pas été éradiquée. Et puis deuxièmement, regardez mon profil. Monsieur Darmon, vous le connaissez bien. J'ai été plus de 20 ans président des Corrigis d'Orange. Festival d'opéra. J'ai été pendant 2 fois 3 ans président d'un des orchestres symphoniques régionaux. J'ai même créé, quand j'étais maire de Valréas, un festival de théâtre de rue. Vous croyez que si nous sommes élus, nous allons liquider la culture ? Nous avons pris un engagement, c'est que le budget de la culture sera sanctuarisé. C'est-à-dire pas un euro de moins, quelle que soit la situation de cette région. Après, vous savez, on essaie de diaboliser toujours le Rassemblement National. Alors c'est vrai que d'autres candidats étaient plus faciles à diaboliser. Moi, c'est difficile de me diaboliser. J'ai été maire, je ne vais pas vous refaire mon pédigré, mais à chaque fois que j'ai pris des décisions, elles respectaient les règles républicaines. Et pour finir, est-ce que vous croyez, comme l'aurait dit un certain général, que je vais commencer une carrière de dictateur à 62 ans ?
Alors, on verra si vous commencez une carrière de président de région. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Et Thierry Mariani, tête de liste pour la région sud, pour le Rassemblement National. Le président de la République était au sommet social de Porto. Il s'est expliqué néanmoins sur les questions de sécurité. On écoute, on regarde.
Je veux ici leur apporter notre affection, notre soutien. Et apporter aussi notre soutien sans faille à toutes nos forces de sécurité intérieure. C'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle. Et que le rôle chaque jour de nos policiers est rendu plus difficile par cette violence.
Alors Thierry Mariani, les policiers en colère appellent à une marche. On sent bien, on sait qu'il y a un malaise au sein de cette institution. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ça va au-delà de ça et que quelque part il y a une forme de révolte qui gronde chez les forces de l'ordre ?
Le malaise, il est chez les policiers, mais il est surtout au niveau de l'État. Voilà, là, on voit un président commentateur qui dit « Ah bah oui, la violence, ça augmente, etc. » les policiers sont en première ligne, en payent le prix cher.
Il y a une réunion devant le commissariat d'Avignon aujourd'hui.
Voilà, et merci d'en parler. Je dois dire que j'ai l'habitude d'honorer les invitations, et donc je suis là avec plaisir. Mais si j'avais pas été là, je serais à 14h, comme beaucoup d'habitants de notre département, pour marquer mon soutien devant le commissariat aux policiers.
Là, on entend dire, notamment au sein des syndicats de policiers, qu'un certain nombre d'entre eux pourraient, par exemple, se mettre en arrêt maladie puisqu'ils n'ont pas le droit de grève. Est-ce que vous leur dites « Non, ne faites pas ça, c'est pas le moment, on a besoin de vous ».
Je pense que les policiers sont extrêmement responsables et connaissent ce qu'ils doivent faire. Ce que simplement je constate, c'est, regardez l'actualité de ces derniers jours, c'est d'abord Stéphanie à Rambouillet, qui est égorgé par un terroriste. C'est Éric Masson, dans mon département, qui est assassiné pour un simple contrôle de deal. Voilà, quelqu'un de Bédarrid, c'est à 8 km de là où j'étais député à Orange. Et je pense que comme tous les Français, on est profondément ému. Moi, j'ai vu la photo d'Éric Masson. Vous avez remarqué la petite main qui était sur son épaule. Ben, c'est quand même, vous dites, il a deux enfants qui ne reverront plus ce père de famille. Et je pense que tous les Français se sentent émus et se disent, ça ne peut pas continuer comme ça.
Thierry Mery, on écoute et on voit votre émotion, mais en même temps on se dit, c'est le résultat de peut-être une forme d'efficacité de l'action de la police qui va combattre les trafiquants de drogue, qui se trouve justement... désarçonnés, désemparés, et qui réagissent avec toute cette violence. Mais ça veut dire que c'est aussi la forme, le fait que la police est efficace.
Écoutez, c'est quand même paradoxal de dire parce que la police travaille, elle a des victimes. Voilà. Moi,
je ne suis pas les victimes, mais c'est aussi, ça montre bien que cette violence-là, et c'est justement ça sur lequel il faut travailler, fait que montre que le gouvernement tape juste lorsqu'il dit on va démanteler les trafics de drogue. Ça, vous le reconnaissez pas?
Je trouve qu'il y a une action, mais qui est totalement insuffisante. Et je répète, en plus, on est dans une dérive. Quand c'est des opérations, j'allais dire, préméditées, où il y a de la violence et tout. Mais là, c'est quoi? C'est un simple contrôle en plein centre-ville d'Avignon qui dégénère. Le gars a un flingue, tire, part en trottinette. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect des forces de l'ordre. Policiers, gendarmes, pompiers, c'est devenu des cibles. Et pourquoi sont devenus des cibles? Parce qu'en réalité, les criminels savent qu'ils risquent pas grand-chose. Ils auront des années de prison, mais ils sortiront assez vite. Et aujourd'hui, moi, ce que j'attends, c'est surtout un renforcement de la chaîne pénale. Les policiers, les gendarmes, la police municipale, qui par moments les assiste, font un travail remarquable. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, je me souviens, quand j'étais maire de Valréas, les gendarmes de Valréas qui me disaient « Ce gars-là, on l'a amené au tribunal de Carpentras. Trois jours après, il repasse dans le commissariat, dans la caserne, en nous faisant un bras d'honneur. » Et aujourd'hui, c'est quasiment des faits généraux. Regardez, par exemple, l'assassinat de Chaynes. Qu'est-ce qu'on apprend du
Mérignac.
À Mérignac, oui. Voilà.
Victime de violence conjugale.
Voilà, une pauvre femme qui, en réalité, voulait vivre en France comme une Française, même si elle était algérienne. Et on apprend qu'en juin dernier... son mari qui l'a tué, avait été condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. Qu'est-ce qu'il a fait? En octobre, il a fait quelques mois de prison. En juin, il est incarcéré. En octobre, il est placé dans un établissement. Et en décembre, on le remet en liberté. Et la justice dit, ah, il s'est présenté à 4 contrôles, il a rempli ses obligations. Est-ce que vous croyez que ça peut continuer comme ça? Monsieur Dupond-Moretti, à la place de faire le candidat pour les élections départementales, il ferait mieux, je pense, de s'occuper de la chaîne pénale. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la justice.
Thierry Mariani, on est à l'orée de la campagne présidentielle. À vous entendre et à entendre également beaucoup d'autres, sécurité, autorité sont les deux seuls sujets au centre de cette campagne. C'est le seul projet pour la France aujourd'hui.
C'est bien sûr pas le seul projet. Marine Le Pen, en son temps, dévoilera son projet en matière économique, en matière d'aide aux entreprises, par exemple en matière pour les successions. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand je regarde l'actualité sur vos radios, sur vos chaînes, c'est l'actualité prédominante.
Aujourd'hui, on en a entendu, hein, Nicolas Sarkozy, dans Le Point, cette semaine, dire « il y a une crise d'autorité ». On entend Marine Le Pen dire à la Trinité « je serai la présidente qui va rétablir l'autorité ». On entend également Xavier Bertrand dire « projet autorité ». Vous pensez vraiment que les Français ne veulent que ça? Ils ne peuvent pas entendre aussi autre chose? Il n'y a pas d'autre chose? Je répète la question parce qu'on a quand même le sentiment que tout est centré autour de cela. C'est le problème central de la France aujourd'hui?
D'abord, c'est le premier problème de tous les Français. Je veux dire, avant de savoir si vous avez un boulot, comment vous transportez, le premier problème, c'est de savoir si, quand vous sortez dans la rue, vous risquez pas d'être assassiné. Le problème, c'est quand votre gosse va à l'école, c'est de savoir s'il reviendra. Et aujourd'hui, dans le Vaucluse, je vois, quand je regarde la chronique des quotidiens, je vois des villages où, il y a 10 ans, on n'aurait jamais osé imaginer.
À vous entendre, est-ce que vous dites, par exemple, qu'Emmanuel Macron est un danger pour la France? Quand on vous écoute ce matin, on a l'impression que c'est ce que vous dites.
Je pense qu'il n'a pas pris conscience de la situation. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensauvagement que dénonçait Marine Le Pen il y a des années, ben malheureusement, c'est la réalité.
Repris par Gérald Darmanin, c'est
oui, mais enfin, le problème des... Alors, je ne sais pas si je dois dire des Républicains, parce qu'il les a quittés, mais enfin, le problème, en général, du reste de la classe politique, c'est qu'ils donnent toujours raison à Marine Le Pen quelques années après. J'ai même entendu Mme Pécresse, désormais, dire « il y a un lien entre le terrorisme et l'immigration ». Ça fait des années que Marine Le Pen le dit.
Yoann Uzay.
Alors, on va parler du référendum sur le climat promis par Emmanuel Macron et qui est finalement abandonné. Il a été promis à la Convention citoyenne. Est-ce que vous regrettez l'abandon de ce référendum ou vous dites de toute façon ça n'aurait pas servi à grand-chose?
Non, ça ne servait à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est sur, et Marine Le Pen l'a dit, sur les sujets concernant l'environnement, un référendum avec de vraies questions. Par exemple, est-ce que les Français veulent continuer avec le nucléaire? On ne peut pas petit à petit laisser les écologistes grignoter l'un des rares atouts qui nous restent. Voilà, nous soutenons la filière nucléaire. Deuxième exemple de question qu'elle veut poser par référendum. Est-ce que les Français veulent continuer à ce qu'on pourrisse le paysage avec partout des éoliennes qui nous coûtent extrêmement cher, qui en réalité sont des éléments qui polluent réellement quand on voit comment elles sont faites, quand il faut les détruire, etc. Voilà, ce qu'on veut, nous, c'est des questions claires. Je veux dire, est-ce que vous voulez que la Terre soit propre et est-ce que vous voulez qu'on fasse des efforts pour l'environnement? C'était un peu ça qu'on allait avoir avec comme référendum. Il recule une fois de plus, ou plutôt, je pense qu'il a fait de la com en annonçant ce référendum, mais c'était pas les vrais sujets qui étaient posés aux Français. Nous voulons, et Marine Le Pen l'a dit, elle aura recours au référendum, poser des vraies questions précises pour que les Français puissent choisir.
Nicolas Barret.
On a l'impression que des pans entiers du programme du Rassemblement National sont petit à petit abandonnés, parce que la sortie de l'euro, vous n'en parlez plus trop.
Il y a 3 ans déjà.
Vous dites qu'il faut rembourser la dette. Est-ce que ça signifie que Marine Le Pen estime qu'elle faisait fausse route?
Non, ça signifie tout simplement que... Je pense qu'elle se prépare à être présidente de la République si les Français lui font confiance et qu'elle réfléchit en ce moment à qu'est-ce qui est le mieux pour la France.
Et voilà. Est-ce qu'elle se prépare pas à parler plus aux premiers de cordée et aux bourgeois qu'aux gilets jaunes?
Elle parle à tous les Français. Quand vous êtes président de la République, vous devez parler pas uniquement aux premiers de cordée, mais aussi à ceux qui malheureusement sont un peu les oubliés de la société. Je vais prendre l'exemple de la dette. C'est tellement facile de dire on remboursera pas la dette. Monsieur Mélenchon en est l'exemple, etc. Mais allez chez votre banquier, si vous lui remboursez pas votre prêt, vous croyez qu'après il va vous faire un second prêt? Voilà, malheureusement, elle tient une position que certains ne comprennent pas, mais qui est la position de l'intérêt de la France. Et donc, ces évolutions de Marine Le Pen, notamment sur les sujets économiques, montrent qu'elle est tout à fait désormais en compétence pour gérer la France.
On se retrouve avec Thierry Mariani dans quelques instants.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Yoann Uzaï,
Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Thierry Mariani pour cette dernière partie du grand rendez-vous. Thierry Mariani, donc tête de liste pour le Rassemblement National dans la région Sud-PACA. La France se déconfine alors que le virus circule toujours activement. Est-ce que le président de la République a raison de lancer le déconfinement et de le décréter?
Je crois surtout qu'il n'a plus le choix. Je veux dire, on est le dernier pays quasiment à ouvrir ses terrasses. Hier, c'était les terrasses qui ouvraient à Bruxelles. On a eu la même chose aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie. Le fait que bientôt la France soit un îlot où on est encore totalement confiné était impossible. Et puis les Français ne peuvent plus le supporter.
Il n'y a plus le choix ou il y a le choix justement puisqu'il y a la vaccination? Ça permet de le faire?
Non, il n'y a surtout plus le choix parce que les Français ne peuvent plus le supporter. Parce que je pense que dans cette question, il y a eu trop de errements. Et puis d'autre part... Heureusement, la vaccination avance. J'ai vu que désormais, on était 10e au niveau européen. Mais quand je compare à la situation d'autres pays hors d'Europe, on n'a pas fait de miracle, contrairement à ce qu'on s'attendait avec l'Europe.
Le président des États-Unis, Joe Biden, propose la levée temporaire des brevets sur les vaccins. Bonne idée pour vous ?
Je pense que c'est démago, un peu comme l'histoire de l'abandon de la dette. Pourquoi je dis ça ? Parce que... Je ne suis absolument pas un avocat des laboratoires qui, par moment, font des bénéfices excessifs. Là, il faut en discuter. Mais si demain, on dit aux laboratoires qui ont trouvé les vaccins, ah ben, vous avez fait des efforts de recherche, vous avez investi. Eh ben, maintenant, votre brevet, il devient public. Vous croyez qu'ils vont continuer longtemps à investir ? Et si on prend même dans cette crise, on s'attend peut-être à des variants de je ne sais où, vous croyez que ces laboratoires vont investir pour savoir comment il faut préparer le futur vaccin ? Non, je pense que...
La recherche a été en grande partie financée par l'administration Trump aux États-Unis en tout cas.
Oui, mais je pense que les laboratoires aussi ont fait des efforts. Je le répète, certains diront non, il faut tout mettre en commun. Si demain je vous enlève le fruit de vos efforts, est-ce que vous allez faire d'autres efforts ?
Votre réponse est économique. Vous ne pensez pas aux régions du monde qui aujourd'hui n'arrivent pas avec des millions de gens dans les populations qui n'arrivent pas à avoir accès aux vaccins et qui pourraient aussi contribuer à ce que le virus, malheureusement, continue à circuler.
Ce n'est pas parce qu'on va donner la formule magique que certains pays vont arriver à le produire. Soyons sérieux, il n'y a que quelques pays qui peuvent le produire. Voilà. Et donc, je ne pense pas que lever les brevets, ce soit une solution pour que tous les pays aient des vaccins. Je pense qu'il y a des moments où, par exemple, comme le programme COVAX, qui a fait l'Europe, vous voyez, pour une fois, je dis du bien de l'Europe, eh bien, c'est une bonne chose et que désormais, quand les Européens auront été vaccinés, je dis bien avant tout les Européens, eh bien, il faudra faire un effort vers les autres pays, notamment l'Afrique, mais que si on veut garantir qu'à l'avenir, on ait toujours des vaccins, eh bien, lever cette
brevets dangereux. Vous n'êtes pas adepte en même temps, c'est d'abord les Européens et ensuite le reste du monde. Il ne faut pas vacciner tout le monde en même temps pour justement faire en sorte...
Non, mais attendez, moi, je rêve que tout le monde soit vacciné. Cette pandémie. Je rêve que tout le monde soit vacciné au même moment. Mais oui, d'abord les Européens. Excusez-moi, quand je vois... c'est il y a quelques jours, M. Macron, dire « Ah, on a été un peu en retard au début sur la vaccination parce que nous, on a été altruistes. Et sur 400 millions de vaccins produits en Europe, on en a donné 200 millions aux autres pays. Ouais. » Ben, c'est extraordinaire, mais moi, je préfère passer, excusez-moi, les nôtres avant les autres. Voilà. Et je pense qu'en premier, on doit s'occuper des Français et des Européens.
À ce propos, Yann Zay.
En France, précisément, dans quelques jours, la vaccination sera de facto ouverte aux plus de 18 ans s'il y a des créneaux disponibles. Et on apprend que l'Union européenne a commandé 2 milliards de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Bon, finalement, on se dit que... Voilà, l'Union européenne et le gouvernement n'ont pas si mal géré cette crise, finalement.
Ben écoutez, d'abord, regardez d'autres pays. Vous avez parlé des États-Unis. Je ne vais pas vous citer Israël, mais je vous citerai deux pays, par exemple, qui n'ont pas la puissance des pays européens. La Serbie, qui n'est pas dans l'Union européenne. Le Maroc, où en réalité, les taux de vaccination sont nettement supérieurs.
Là, on sort de la crise, ça y est.
Alors, ben heureusement qu'on est en train de sortir de la crise. D'abord, l'été arrive. Heureusement, une partie des Français aujourd'hui commencent à être vaccinés. J'ai jamais dit qu'avec M. Macron, on ne sortirait pas de la crise. Je dis simplement qu'on y sort après beaucoup d'autres. Le meilleur exemple, c'est cette histoire de réouverture des terrasses. On est quasiment les derniers en Europe.
Nicolas Barré.
Thierry Mariani, on change un peu de sujet. L'opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, est retenu en prison à Moscou. Est-ce que vous considérez, comme beaucoup d'Occidentaux, qu'il s'agit d'un prisonnier politique qui devrait être libéré ?
Je vous rappelle qu'Amnesty International lui a retiré la qualité de prisonnier politique. En raison, ce qu'on oublie en Occident, c'est de ses positions extrêmement racistes qu'il avait sur certaines vidéos, que jamais personne n'a osé avoir dans ce pays. Je vous rappelle d'abord que M. Navalny, qui est certes un opposant, mais un opposant mineur, quand vous connaissez la Russie, est aujourd'hui en prison.
Bah, qui d'abord. Inquiète quand même le régime, manifestement.
Franchement, je n'ai pas l'impression.
Beaucoup d'énergie. État de santé inquiétant.
Ah, sur l'état de santé, d'accord. Mais
c'est comme si vous m'expliquiez,
pardonnez-moi, que Macron est inquiété par Besancenot. Quoi. Je veux dire, il ne joue pas dans la même division avec le chef de l'État
justement,
russe.
Justement, alors s'il est faible opposant,
parce que je vous rappelle qu'il a été condamné par la justice russe pour des délits commerciaux. Voilà. Qu'est-ce que vous penseriez si demain, je vous prends un exemple, il y a une perquisition chez M. Mélenchon. Qu'est-ce que vous diriez si un pays étranger expliquait c'est une perquisition uniquement pour des raisons politiques et donnait des leçons à la France ? Il est condamné pour un délit commercial.
Donc pour vous, sa place est en prison ?
Pour moi, sa place, s'il a commis un délit commercial, c'est que la sanction qui a été jugée par la justice russe s'applique, c'est tout. Attendez.
Par la justice ou par Vladimir Poutine ?
Par la justice.
Vous êtes sûr ?
Oui, j'en suis sûr. Mais je veux dire, je ne comprends pas cet acharnement contre la Russie. Est-ce que la Russie est notre ennemi ? Ou plutôt, oui, je comprends, on a besoin pour l'OTAN et le lobby militaro-industriel américain de fabriquer un ennemi. Mais la Russie n'est pas notre ennemi. La Russie, aujourd'hui, je vous le rappelle, a un budget militaire à peine supérieur au budget militaire français. Et en tout cas, nettement supérieur au budget militaire allemand et français réunis.
La question se pose en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, une justice qui peut être indépendante. Vous dites que Navalny, finalement, pour vous, c'est un délinquant commercial. Mais on se dit aussi que vous avez beaucoup de mal peut-être à parfois à prendre du recul vis-à-vis de la Russie parce que vous dites que c'est un allié absolu et donc inconditionnel.
Je ne suis pas un allié absolu de la Russie. Vous savez, moi je suis fidèle à la position gaulliste. Je pense que notre meilleur allié, ce sont les États-Unis. Mais c'est aussi notre pire concurrent en termes économiques. Mais que la Russie n'est pas notre ennemi. Et moi je suis fidèle à la position du général de Gaulle, de Jacques Chirac d'ailleurs aussi, et même de François Mitterrand à cette époque, qui disait on doit être entre les deux blocs. Voilà. À rester uniquement dans un climat d'hostilité, on se prive de beaucoup de coopération qui pourrait nous être utile avec la Russie. Et puis surtout, soyons sérieux deux minutes. Vous savez comme moi que derrière Navalny, il y a des calculs américains extrêmement importants. On nous explique que parce que M. Navalny est en prison, l'Allemagne devrait abandonner son projet Nord Stream 2 d'arrivée de gaz en Allemagne pour faire quoi ? Ah ben pour acheter du gaz de schiste américain. C'est ça que vous voulez ? Voilà, donc on est dans une guerre aujourd'hui, j'allais dire, de soft power médiatique, où M. Navalny est un instrument pour les Américains. Je ne pense pas qu'il représente un danger pour M. Poutine.
Et où la Russie lance des attaques informatiques contre la France aussi ?
Tous les pays lancent des attaques informatiques. Et puis vous savez comme moi que définir d'où vient une attaque informatique, c'est extrêmement aujourd'hui délicat.
Vous craignez une attaque justement informatique venant de la Russie pour la campagne présidentielle ?
Non, non, franchement non. Vous savez, ça fait partie désormais des fantasmes. Avant, c'était les espions russes. Maintenant, c'est les attaques informatiques. Très franchement, on vote pas par informatique en France et tout. Soyons sérieux deux minutes, quoi. Il n'y a pas de risque du tout.
Est-ce que Marine Le Pen, est-ce qu'elle peut être soutenue, même de loin ou de près, par Vladimir Poutine dans sa candidature à l'élection?
Non, je pense que franchement, c'est pas la préoccupation de Vladimir Poutine. Je pense que d'abord Marine Le Pen sera soutenue par les Français. Et puis, excusez-moi, quand par exemple Monsieur Obama fait un message de soutien à Monsieur Macron, tout le monde trouve ça normal pendant les présidentielles. Donc, dans ce cas-là, quand on condamne les soutiens de l'étranger, il faut les condamner de tous les bords. Voilà, l'intérêt de la France, c'est d'avoir des bonnes relations avec ses deux grands partenaires.
Nicolas Barré.
Joe Biden, le président américain, a reconnu le génocide arménien. La France doit suivre, Thierry Mariani.
La France a suivi depuis longtemps.
Oui, mais dans les mêmes termes, avec autant de...
Je vous rappelle qu'en France, grâce à Patrick Devedjian et François Rochebloine, moi je me souviens à l'Assemblée nationale, je suis même intervenu, vous pouvez vérifier, avoir soutenu non seulement la reconnaissance du génocide arménien, mais aussi... la pénalisation de la négation du génocide arménien.
Tout à fait.
Donc, si vous voulez, la France est en avance par rapport à la Russie. Pardon, par rapport aux États-Unis.
Par rapport aux États-Unis.
Par rapport aux États-Unis, il n'y a aucun problème.
Dont on dit aussi, dont on sait que vous êtes proche de certains pays qui sont hostiles à l'Arménie, comme l'Azerbaïdjan, par exemple. Quelle est votre position ?
Ma position, je l'ai exprimée dans mes votes. Il ne faut pas tout mélanger. Si vous avez une minute, est-ce que je reconnais le génocide arménien ? Bien sûr, je l'ai voté, vous pouvez vérifier, je suis même intervenu à l'Assemblée nationale et je suis re-intervenu pour la reconnaissance, pour la pénalisation de la négation du génocide. Vous savez, c'est une région que je connais bien. J'y suis allé en tant que député des Français de l'étranger, aussi en tant qu'observateur pour les élections, dans les trois pays du Caucase du Sud, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, à de nombreuses reprises. J'ai même été reçu deux fois par le président Sarkissian. Vous croyez qu'il aurait reçu quelqu'un qui était l'ennemi acharné de son pays? Je rajoute que la communauté arménienne en France ne pose aucun problème et s'est intégrée de manière exemplaire. Mais permettez-moi de dire que ma position, et moi je ne change pas de position comme certains à la veille des élections, c'est la même que l'État français depuis Chirac, Mitterrand, et y compris Emmanuel Macron, qui dit quoi ? Qui dit qu'en droit international, il y a une intégrité du territoire de l'Azerbaïdjan qu'on reconnaît. Et si vous permettez, Monsieur Muselier, qui aujourd'hui surfe là-dessus, je vous invite à regarder où est-ce qu'il a fait son premier voyage à l'étranger quand il fut secrétaire d'État de Monsieur Villepin, en Azerbaïdjan. Et qu'est-ce qu'il a dit en Azerbaïdjan ? Il a dit la même chose que moi. La France reconnaît les frontières internationalement reconnues de l'Azerbaïdjan. Donc il faut pas caricaturer. Et une conclusion.
Parce qu'on parle effectivement.
Voilà. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a la chance d'avoir énormément de pétrole, est un pays riche et un pays surarmé. On l'a vu malheureusement dans cette guerre. L'Arménie est un pays pauvre. Il faut que ces pays s'entendent. Et le rôle de la France, c'est plutôt aujourd'hui, puisqu'on est membre du fameux groupe de Minsk, de favoriser le dialogue, de faire en sorte que, comme la France et l'Allemagne ont fait la paix, il y a désormais un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Autrement, ils vont continuer la guerre de 100 ans et des centaines de personnes continueront à mourir.
Merci Thierry Marigny, c'était votre grand rendez-vous. Merci à tous. À très bientôt.